où il est expliqué ce que c'est que Dame Marie, Mariette, Clio-Pierre, Conscience et Bernard, et où il est dit un mot de la vache noire. Dame Marie était la femme du maître d'école. Elle demeurait, comme on voit, juste en face du père cadet. Un jour, elle entra, portant une petite fille de 3 mois entre ses bras dans la chaumière de Madeleine, qu'elle trouva vêtue de deuil, inclinée et pleurant sur le berceau d'un petit garçon de 5 mois. « Eh, ma pauvre voisine, dit-elle, on m'apprend que votre lait est taré tout à coup. Est-ce vrai ?»« Hélas, mon Dieu, oui, bonne chère dame Marie, répondit Madeleine. Et vous l'entendez, pauvre petit Jean, il pleure parce qu'il a faim. » « Oh bien, que cela ne vous inquiète pas, Madeleine, dit Dame Marie. Heureusement que le Seigneur m'en a donné à moi pour 2 du lait. Et voilà ma petite Mariette qui ne demande pas mieux que de partager avec son ami Jean. » Et sans écouter ce que lui disait Madeleine, elle prit le petit Jean dans son berceau, s'assit dans la chaumière, ayant un enfant sur chaque genou, et avec la sublime impudeur des mères qui savent que la vénération publique les garde, elle découvrit les 2 globes de sa poitrine et donna un sein à chaque enfant. Alors Madeleine tomba à genoux devant elle et joignit les mains en pleurant. « Que fais-tu donc là, Madeleine ?» demanda la dame Marie étonnée. « J'adore une des 3 grandes vertus chrétiennes, dit la pauvre mère. J'adore la charité. » Le petit Jean but tant qu'il eut soif à cette première coupe de la vie, la seule qui ait du miel sur ses bords et point de lit au fond. Puis, quand il eut bu, « Là, dit dame Marie, je reviendrai 3 fois par jour lui en donner autant. Et si dans les intervalles il pleure, vous m'appellerez. Je ne suis pas loin et la bouteille est là. » Après quoi, elle remit le petit Jean dans les bras de sa mère qui, le serrant contre son cœur, le recoucha, toute pleurante, dans son berceau. Hélas, il lui semblait, pauvre Madeleine, qu'elle allait moins être la mère de son enfant, puisque c'était une autre qui le nourrissait. Maintenant, d'où venait qu'elle pleurait, pauvre femme en deuil? D'où venait que son lait s'était taré tout à coup? Pauvre mère désolée! Guillaume, son mari, soldat de 92, après s'être venu passer 15 jours avec elle en allant de la Vendée en Italie, Guillaume avait été tué glorieusement en combattant à Montenotte. Elle avait appris 3 jours auparavant la nouvelle de cette mort par une lettre que Guillaume Morand avait fait écrire à sa femme par un camarade, et le coup avait été tel que son lait avait tari. Depuis la veille, elle s'en était aperçue. D'abord, elle n'avait pu croire à ce nouveau malheur. Elle ne pouvait songer que le sein de la mère puisse s'épuiser de lait tant que les veines de la femme n'étaient point épuisées de sang. Mais les cris du pauvre petit Jean l'avaient malgré elle ramenée à l'implacable réalité. Elle pleurait donc de douleur, et le petit Jean pleurait de faim lorsque Dame Marie entra, la petite Mariette entre ses bras, et apaisa d'un seul coup la faim et la soif de l'enfant. Maintenant, pourquoi appelait-on Madeleine, Madeleine tout court, et appelait-on Marie, Dame Marie? Oh, ce n'était point qu'elle fût fière, qu'elle fût riche, pauvre femme, aussi humble et presque aussi pauvre que la dernière du village. Non, c'est qu'elle était la femme du maître d'école. Et comme le maître d'école, aux yeux des enfants, est un grand personnage, comme on appelait le maître d'école Monsieur Pierre, on appelait sa femme Dame Marie. Tous deux, mari et femme, s'étaient crus riches un instant. Ce fut lorsque la vraie France, la France régénérée, la France populaire, déclara par la voix de la Convention que l'enseignement était un sacerdoce et que le maître d'école, qui instruit le corps, était l'égal du prêtre, qui épure l'âme. Ce fut lorsque, pendant cette terrible misère de 1795, elle avait voté, le 23 Brumaire en 3, sur le rapport de la Canal, 54 millions à l'instruction primaire. Mais elle n'avait pas duré l'austère et sanglante matrone. Le directoire lui avait succédé. Et que faisait au directoire que les maîtres d'école eussent faim, et que ceux que le peuple paie le moins fussent justement ceux-là qui l'instruisent, c'est-à-dire qui font le plus pour son intelligence et la liberté? Dame Marie devint donc la seconde mère du petit Jean. Jean grandit, moitié sur ses genoux, moitié sur ceux de sa mère. D'un autre côté, Madeleine aimait Mariette comme sa fille. Plus d'une fois, tandis que Dame Marie portait Jean dans ses bras, Madeleine portait Mariette dans les siens. Quelquefois, l'une ou l'autre les portait tous deux. Il y avait un échange d'amour entre ces 2 femmes, sans que jamais ni l'une ni l'autre aient calculé laquelle était en avance, laquelle était en retard dans le compte mutuel de leur charité. La petite Marielle poussait comme une fleur des champs, comme une violette dans l'herbe, comme un bluet dans les blés, comme une marguerite dans les prairies. Elle appelait le petit Jean son frère, et le petit Jean l'appelait sa sœur. Mais Jean et elle ne poussaient pas de la même manière. Mais Jean ne parlait pas comme Mariette. Mais Jean ne paraissait pas vivre de la même vie que Mariette. Jean vivait d'une vie intérieure, singulière, presque végétative. Jean n'était pas un enfant de ce monde, car ce qui récréait, ce qui amusait, ce qui réjouissait les autres enfants, ne le réjouissait pas, ne l'amusait pas, ne le récréait pas. Voici à quoi sa pauvre mère, qui le regardait souvent en secouant la tête, quelquefois en pleurant, voici à quoi sa pauvre mère attribuait ce phénomène. Quand Guillaume, en traversant la France, après être resté 15 jours près de Madeleine, l'eut quitté pour rejoindre son régiment, il se fit une grande tristesse dans le cœur de la pauvre créature, comme si elle eût pu deviner qu'elle venait de voir son mari pour la dernière fois et que Guillaume l'a quitté pour toujours. La tristesse dans les cœurs purs, c'est la sœur de la religion. Pieuse toujours, Madeleine redoubla de piété et elle donna à la prière et passa dans l'église tous les instants que lui laissait son travail. Or, dans l'église, il y avait un grand tableau qui avait été donné à l'église par un riche abbé qui demeurait dans les environs et qu'on appelait l'abbé Conseil. Ce tableau représentait Jésus au milieu des petits-enfants, c'est-à-dire une des plus touchantes paraboles de l'Évangile. Tous les petits-enfants se pressaient pour serrer les genoux et baiser les mains du Christ. Un seul restait en arrière, jouant avec un gros chien. Celui-ci a représenté une parabole non moins miséricordieuse que la première. Le Christ étendait plus tendrement la main vers cet enfant que les autres. Il semblait lui faire signe d'approcher, lui aussi, comme les autres. Mais une mère jalouse lui disait « Laissez-le, Seigneur, c'est un simple, un innocent, un pauvre d'esprit. » Et Jésus répondait « Bienheureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. » Cet enfant, jouant tout seul avec son chien, ce simple, cet innocent, ce pauvre d'esprit qu'une femme jalouse veut éloigner de cette communion d'amour universel prêchée par Jésus, avait toujours préoccupé Madeleine. Elle s'était prise d'une grande pitié pour ce pauvre délaissé. Et quand elle priait agenouillée devant ce tableau, elle regardait toujours si l'enfant, appelé par le Christ, ne quitterait point sa place et ce gros chien avec lequel il jouait pour venir, mêlé aux autres enfants, recevoir la bénédiction de l'homme-Dieu. Chaque soir, elle se disait, le laissant ainsi isolé loin du Seigneur, « Demain, je le retrouverai près de lui. » Mais le lendemain, son premier regard retrouvait l'enfant à la même place et elle murmurait, « Cher enfant, heureusement que le Seigneur a dit « Bienheureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. » Que la science explique comme elle pourra ce phénomène si bien expliqué par la foi. Mais lorsque Madeleine accoucha de Jean, elle s'écria en regardant son enfant « Oh mon Dieu, Seigneur, m'avez-vous béni ou frappé? Mais mon enfant est tout le portrait du pauvre innocent à qui vous faites signe de venir à vous. » Puis elle ajouta, avec cette foi sainte des mères « Oh, il ira, n'en doutez pas, Seigneur Dieu, et c'est moi qui vous le conduirai. » Et en effet, Jean, c'était l'innocent du tableau. Sa tête blonde et ses grands yeux bleus, qui ne semblaient rien voir de ce qui se passait autour de lui, comme si un voile était étendu entre le monde et son intelligence. La chose était si réelle, la ressemblance était si frappante, que chacun reconnut le petit Jean quand il sortit au bras de sa mère et que les bonnes femmes du village, toujours prêtes à cette fausse pitié, plus douloureuse souvent que l'indifférence, s'écriaient, chaque fois qu'elles l'apercevaient, « Jésus-Dieu, pauvre petit !» C'est tout le portrait de l'innocent du tableau de l'église. Madeleine souriait. À ses yeux, Jean était le plus beau de tous les enfants. Et elle ne permettait qu'à la petite Mariette d'être aussi belle que lui. Cependant, son inquiétude fut grande. À 1 an, le petit Jean n'avait pas encore prononcé une parole. Elle craignait que l'enfant ne fût muet. Mais un jour, elle fut doucement et grandement surprise à la fois, comme elle disait sans cesse « Mon Dieu, la parole à mon enfant !» « Mon Dieu, faites que mon enfant ne soit pas muet !» L'enfant se souvint du mot qu'il avait si souvent entendu, et souriant à sa mère, il répéta après elle, « Dieu !» Madeleine tomba à genoux en s'écriant, « Seigneur, je vous remercie, non seulement de ce que vous m'avez exaucé, mais encore de ce que votre saint nom soit le premier qui ait été prononcé. » Le petit Jean, à partir de ce moment, commença de parler. Mais il ne parla point comme les autres enfants. Les autres enfants ont, pour ainsi dire, deux langues, la langue enfantine, puis la langue sérieuse. Seulement, il parlait peu, disait un mot ou deux, trois ou plus, complétant sa pensée par un sourire, par un geste, par un regard. La petite Mariette était sa seule compagne. Jamais on ne l'avait vue jouer avec les autres enfants. D'ailleurs, Jean ne jouait pas, il rêvait. Jean aimait Marie et sa mère d'un amour à peu près égal. Jean aimait le père cadet de tout son cœur. Jean aima le petit Pierre quand le petit Pierre vint au monde à son tour, mais le reste du village semblait, je ne dirais pas étranger, mais inconnu à Jean. Jean aimait les animaux, et les animaux aimaient Jean. Qu'y avait-il donc dans cet enfant pour que tous les animaux l'aimassent et le suivissent? Pierrot l'entêté, qui parfois refusait obstinément au père cadet de franchir un ruisseau ou de traverser un fossé. Pierrot, dès que Jean le conduisait par la bride ou montait sur son dos, devenait docile comme un mouton, obéissant comme un chien. Tardif, qui parfois méritait son nom par un peu de paresse, sentait l'enfant de loin et mugissait à son approche. Il est vrai que l'enfant n'entrait jamais dans l'étable sans apporter tout ce que ses petits bras pouvaient contenir d'herbes fraîches et de fleurs tendres. Et l'on eût dit, tant alors Tardif ruminait voluptueusement, que Jean avait un secret pour choisir les fleurs et les herbes que Tardif aimait le mieux. La vache noire était un double produit pour Dame Marie. Tous les ans, elle vendait un veau, tous les jours, elle vendait son lait, et grâce aux soins de Jean, qui avait appris à Mariette à choisir les herbes les plus savoureuses, le lait de la vache noire était renommé dans les environs. Mais il arrivait souvent que, lorsqu'on venait de vendre le veau, la pauvre mère, attristée, refusait son lait à ceux qui, pour l'avoir tout entier à eux, venaient de lui prendre son enfant. Alors Jean entrait dans l'étable. Il prenait le museau marbré de la vache, l'élevait à la hauteur de son visage, fixait les yeux sur les yeux sombres de la bête rétive, lui parlait. Quelle langue, le seigneur le sait. Alors la vache mugissait deux ou trois fois tristement. Jean appelait Dame Marie. Il laissait sa main étendue sur le cou de l'animal, et l'animal soumis, sinon consolé, laissait aller à flot la crème blanche et épaisse qu'il retenait parfois depuis 3 jours. Mais pour les animaux sauvages, c'était bien autre chose. Comme jamais Jean n'avait fait le moindre mal à une créature vivante, tous les simples de la création l'aimaient, excepté ceux-là dont l'instinct est de nuire. On eût dit qu'il tenait l'enfant pour un petit ange passant sur la terre avec une douce voix qui parle tous les langages au nom du Seigneur. Et en effet, à la façon rêveuse dont Jean, couché sur la mousse ou appuyé contre un arbre, écoutait les oiseaux chanteurs, on eût cru, à le voir ainsi attentif et immobile, qu'il comprenait leur chant, qu'il eût pu le traduire et l'expliquer. Et en effet, souvent la petite Mariette, qui ne comprenait rien à cette langue, demandait à Jean « Jean, quel est cet oiseau qui chante ?» Jean répondait « C'est un rossignol, un pinson ou un rouge-gorge. » Car Jean n'avait pas besoin de voir l'oiseau qui chantait pour savoir quel était cet oiseau. Et Mariette, voyant qu'il écoutait toujours, demandait « Jean, que dit-il ?» Et Jean répondait « Il remercie le Seigneur qui, pour lui épargner le long vol qu'il y a d'ici à la mare, a mis une goutte de rosée dans une feuille roulée. » Ou bien « Il remercie le Seigneur qui a permis que l'épine du chemin arracha un peu de laine aux moutons qui viennent de passer, car le temps où la femelle va pondre est venu, et de cette laine, il va céder pour faire son nid. » Ou bien encore, il se plaint de ce qu'un enfant du village lui a enlevé ses petits sans savoir de quel grain il faut les nourrir, de sorte que ses petits vont mourir de faim. Pour les plantes, pour les herbes et pour les fleurs, il en était de même. Jamais Jean n'eût inutilement foulé une plante au pied, coupé de l'herbe avec sa faucille ou bien cueilli une fleur. Si par mégarde il avait marché sur quelques tiges ou en rencontrait une sur laquelle on avait marché, il relevait la pauvre plante et lui disait, si c'était lui, « Je ne t'avais pas vue, pauvre petite, pardonne-moi !» Et si c'était quelque autre, « Il ne faut pas en vouloir à celui qui t'a brisé ainsi, disait-il, car il ignorait que tu vis, que tu souffres, que tu pleures comme nous. Mais s'il a brisé ta tige, il te reste des racines. Et de tes racines sortira une tige nouvelle qui, plus heureuse, grandira, fleurira, répandra sa graine autour de toi, de sorte que l'année prochaine, au lieu que tu sois seul et isolé comme aujourd'hui, tu auras toute une famille. » Il en était de même lorsqu'il coupait l'herbe pour Tardif ou pour la vache noire, ou quand il cueillait une fleur pour mettre à la ceinture ou dans les cheveux de Mariette. S'il coupait l'herbe, avant d'approcher la faucille de la touffe qu'il allait faucher, il lui disait « Tu sais pourquoi je te coupe, pauvre petite touffe d'herbe. Ce n'est point pour te faire du mal sans but ou te détruire inutilement. C'est parce que Tardif, le bœuf du père Cadet et la vache noire de Dame Marie ont faim. C'est parce que Dieu t'a faite pour les repaître, pauvre petite touffe d'herbe. Et pour donner à l'un la force de labourer le champ du père Cadet qui nous nourrit, lui, ma mère et moi, et l'autre, le bon lait qu'elle vend tous les matins au château comme aux chaumières. » S'il cueillait une fleur, elle lui disait « Tu sais, c'est pour ta sœur Mariette que je te sépare de ta tige. Tu sais que le Seigneur t'a faite belle et parfumée, non pas pour que tu meures solitaire dans un angle de la plaine ou dans un coin de la forêt, mais pour que tu attestes sa grandeur au milieu des hommes dont tu réjouis à la fois les yeux et les cœurs. » Il résulta de cette faculté, qui semblait avoir été donnée à Jean par le Seigneur, d'entendre et de comprendre la création tout entière, qu'il était bien plus heureux de ses relations avec les arbres, les plantes, les oiseaux, l'air du ciel, la pluie et le soleil, qu'il ne l'était de ce contact avec les hommes. Aussi, tandis que, dans leur langage, arbres, plantes, oiseaux, air du ciel, pluie et soleil disaient « Les arbres en le couvrant de leur ombre, les plantes en lui faisant le chemin plus doux, les oiseaux en l'égayant de leurs chansons, l'air du ciel en lui caressant le visage, la pluie en s'écartant de lui, le soleil en le réchauffant. C'est un petit ange, les gens du village le regardant passer, grave et silencieux. À cet âge où les enfants sont turbulents et joueurs, les gens du village haussaient les épaules, et avec l'accent de la pitié ou de la dérision disaient « c'est un idiot ». Et cependant, comme à toutes les questions qu'il lui adressait, il répondait juste, comme jamais il n'avait menti, comme à tous, il disait la vérité, que cette vérité fût agréable ou non à entendre, au lieu de l'appeler Jean ou le fils cadet, il l'appelait conscience. Il en résulta qu'au bout d'un certain temps, la petite Mariette, Dame Marie, le père cadet et Madeleine elle-même, adoptant le nom sous lequel Jean était désigné dans le village, l'appelait conscience comme les autres. Et Jean, trouvant que c'était un beau nom, un nom selon le cœur de Dieu, se déshabitua peu à peu d'être appelé Jean et s'habitua à être appelé conscience.